Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Le temps de carême est un temps de grâce. Il est dit que Dieu donne certainement plus de grâce pendant tout le carême que pendant toute l'année liturgique, et c'est certainement vrai. Il nous faut donc ouvrir le cœur, notre cœur, pour que nous puissions recevoir les grâces du bon Dieu. Et l'Église a choisi, justement, à cause de cela, comme évangile d'aujourd'hui, pour ce premier dimanche de carême, les tentations, les trois tentations de notre Seigneur. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, difficile à comprendre pour nous, pauvres hommes que nous sommes. Comment Dieu, le Fils de Dieu lui-même, a-t-il accepté d'être touché par le démon? Il a été touché physiquement par le démon. Lui qui est Dieu, qui est venu justement pour détruire la puissance du démon, accepte d'être touché physiquement par le démon. Le démon va le prendre physiquement et le mener au sommet du temple. Le démon va le prendre physiquement et le mener au sommet de la montagne. Pourquoi? Bien justement pour nous apprendre à lutter contre les tentations. Dieu, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le démon, mais évidemment, on n'a absolument pas donné consentement, même début de consentement aux tentations, puisqu'il est Dieu. Ni en tant qu'homme, ni en tant que Dieu, il n'a donné consentement à ces tentations. Mais il a accepté d'être touché physiquement par le démon, il a accepté d'être tenté pour nous apprendre à lutter contre les tentations. Et si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, ne soyons pas surpris, mes bien chers frères, si vous et moi nous sommes tentés. Nous sommes tentés évidemment parce que vous et moi, nous avons les conséquences du péché originel en nous. Et pourquoi ces trois tentations? Parce que les trois tentations explique les trois concupiscences. Le démon, le prince de ce monde, tente chacun d'entre nous avec une de ces trois ficelles, toujours les trois. Parfois une, parfois deux, parfois pour certaines personnes, les trois à la fois. Ou c'est la tentation, la concupiscence des yeux, ou la tentation, la concupiscence de la chair, ou la tentation, la concupiscence de l'orgueil. Et en début de carême, il faut nous rappeler ces trois mots que les anciens utilisaient tout le temps. Les pères de l'Église, quand ils parlent du carême, commencent toujours par trois mots, toujours les mêmes. Le jeûne, la prière et l'aumône. Pourquoi ces trois mots? Pourquoi dans tous les sermons des pères de l'Église sur le carême, on retrouve toujours ces trois mots? Le jeûne, l'aumône et la prière. Pourquoi ces trois mots? Parce que justement, chacun de ces trois mots nous rappelle la lutte contre une des trois concupiscences. La prière contre l'orgueil, le monde contre la concupiscence des yeux, et évidemment le jeûne contre la concupiscence de la chair, tentation d'impureté. Parce que ces trois moyens sont des moyens surnaturels que nous donne le bon Dieu pour en quelque sorte nous obliger à soumettre la chair, la réduire en servitude, comme dit saint Paul. Il y a un combat terrible en nous, mes bien chers frères, en chacun d'entre nous. Un combat terrible entre les passions d'un côté qui tirent d'un côté, la volonté qui tire en général avec les passions et l'intelligence qui essaie de tirer de l'autre côté. Et le bon Dieu qui, avec le don de foi, avec la foi catholique, avec les grâces qui accompagnent cette foi pour ceux qui sont en état de grâce et même pour ceux qui sont en état de péché mortel par les grâces actuelles, le bon Dieu essaie de nous aider à contrebalancer en quelque sorte le poids des tentations. C'est un combat constant qui se terminera finalement que lorsque nous serons au paradis. Alors essayons de développer un petit peu ces choses-là. Pourquoi d'abord la prière? La prière est nécessaire bien sûr tous les jours, mais surtout pendant le temps de carême. La prière, nous disent les pères de l'Église, nous aide à lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est qu'un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se tient debout devant Dieu et qui dit « Je ne servirai pas ». Vous n'allez pas m'apprendre à m'obliger à obéir, vous n'allez pas me dire ce que je dois faire, je décide par moi-même. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça l'orgueil. Ce que c'est qu'un homme qui prie? Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui se met à genoux au pied du bon Dieu, dans une position d'humilité, et qui dit au bon Dieu « Seigneur, souvenez-vous de moi parce que je suis un pauvre homme ». Souvenez-vous de moi parce que de par mes propres forces, je suis incapable d'obtenir quoi que ce soit. Souvenez-vous de moi, oh mon Dieu, et donnez-moi les grâces dont j'ai besoin, les grâces actuelles, une augmentation de grâces sanctifiantes si c'est nécessaire, pour que je puisse justement lutter contre toutes ces tentations. Donc la première condition pour lutter contre les tentations, surtout la tentation d'orgueil, c'est évidemment la vertu d'humilité. Et cette vertu d'humilité ne sera donnée comme un don de Dieu qu'à ceux qui prient. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut rien obtenir. Il faut prier sans cesse, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la prière est la première, le premier moyen de lutter contre l'orgueil. Et l'orgueil des trois concupiscences est la plus féroce, la plus forte. L'orgueil ferme la porte aux grâces du bon Dieu. Comme quelqu'un qui veut rentrer dans une maison qui n'a pas la clé, et tout est fermé à clé. Mais il faut justement la clé, cette clé c'est la vertu d'humilité. Alors il faut, mais bien chers frères, absolument pendant ce temps de carême, tous, chacun d'entre nous, moi le premier, il faut augmenter un petit peu le temps de prière. Chacun fait un petit peu comme il peut, selon les circonstances de sa vie familiale, de sa vie professionnelle, que sais-je, mais il faut augmenter le temps de prière. Parce que beaucoup des grâces du bon Dieu, pas toutes, mais la grande majorité des grâces sont des grâces conditionnelles, mes bien chers frères. Il ne faut jamais oublier ça. Les grâces que le bon Dieu, en quelque sorte, retient. Il ne les donne que si on ouvre la porte. Donc il attend qu'on demande, il attend qu'on frappe à la porte, il attend qu'on cherche Dieu. Et à celui qui frappe, celui qui demande, celui qui cherche, il est répondu. Et à ce moment, Dieu libère ses grâces, mais ne libère pas les grâces à celui qui ne veut pas s'humilier avant de les demander. Celui qui espère recevoir des grâces du bon Dieu, qui espère prier encore une fois en se tenant debout comme le démon en disant « Je ne servirai pas », celui-là ne recevra rien du tout. Donc utilisons ces grâces et augmentons à nous la prière. Qui est la plus belle des prières? La plus belle des prières, c'est la Sainte Messe. Donc peut-être essayons, dans certains cas, c'est possible pour ceux qui n'habitent pas trop loin d'une chapelle, en tradition, essayez peut-être d'assister à une messe en semaine. Pour pouvoir, en plus du dimanche, pour pouvoir justement augmenter cet amour du bon Dieu, cette entrée des grâces du bon Dieu à notre cœur. Pour ceux qui ne disent pas le chapelet tous les jours, eh bien, profitons du carême pour offrir notre chapelet quotidiennement à notre Sainte Vierge Marie, qui est l'intermédiaire de toutes les grâces. Le bon Dieu donne ses grâces de façon conditionnelle, mais il donne les grâces par la Sainte Vierge Marie. Attention, donc ne pas oublier ça. La deuxième chose qu'il nous faut pratiquer, c'est le jeûne. Pourquoi le jeûne? Tous les pères de l'Église, tous sans exception, rappellent toujours que le jeûne est le plus fort moyen, je dirais, de lutter contre les tentations d'impureté. Et surtout dans le monde moderne, alors que le jeûne est absolument partout, que les tentations d'impureté sont absolument partout, il est nécessaire pour nous de faire pénitence de ce côté-là, encore une fois, de courber l'orgueil de la chair. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Rémy à Clovis au moment de son baptême. Courbe la tête, fier sycambre. Courbe la tête, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Pour brûler ce que le monde adore, pour adorer ce que le monde brûle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien chercher à faire la grâce du bon Dieu. Il faut l'aide des sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, justement pour nous remplir du bon Dieu, nous remplissons du bon Dieu. Il faut bien sûr, pour que le bon Dieu ait la place dans notre âme, il faut commencer par nous vider de nous-mêmes. Si notre âme est pleine d'orgueil et pleine de nous-mêmes, comment voulez-vous que le bon Dieu rentre dans notre âme? Il ne peut pas, il faut d'abord commencer par nous vider de nous-mêmes et à ce moment-là, il y aura de la place pour le bon Dieu. Il faut d'abord pousser les choses de ce monde hors de notre âme, faire de la place, alors le bon Dieu peut venir dans notre âme. Voilà pourquoi l'Église demande aux fidèles de jeûner pendant le carême. Bon, certes, le bon Dieu, dans sa grande bonté, l'Église aussi, dans sa bonté, justement, accorde certaines tolérances, justement. Qu'est-ce que c'est que le jeûne ecclésiastique? Le jeûne que l'Église suit pendant le carême, ce n'est pas le jeûne naturel, ce qu'on appelle le jeûne ecclésiastique. Qu'est-ce que c'est que le jeûne ecclésiastique? Ça consiste en un repas par jour, un repas normal. Repas normal, vous avez le droit de manger de la viande à ce repas normal, mais c'est un repas qui est unique. On tolère une petite chose le matin, une petite chose le soir, après on adapte un petit peu selon les difficultés. C'est évident que quelqu'un qui fait des gros travaux physiques va avoir besoin de manger un peu plus que quelqu'un qui ne fait que des travaux intellectuels. Mais c'est ça l'essence du jeûne. L'essence du jeûne, c'est un repas par jour. Se rajoute l'abstinence. L'abstinence, c'est l'absence de viande. Sont obligées par le jeûne toutes les personnes de 21 à 60 ans. L'abstinence, absence de viande, pour tous ceux qui ont l'âge de raison. L'abstinence, elle, est obligatoire tous les vendredis, surtout bien sûr les vendredis de carême, les mercredis décembre qui viennent de passer, et également pour les quatre temps, au moins pendant le carême. Pendant le carême, il y a plus d'obligations de l'abstinence de viande et quatre temps de carême. Cette semaine, nous avons les quatre temps. Et donc, il est important qu'on fasse pénitence au niveau de la nourriture aussi. Bon, chacun adapte en fonction, encore une fois, de son devoir d'État, parce que le bon Dieu vous demande d'abord de pratiquer votre devoir d'État. Certaines personnes peuvent jeûner plus que d'autres. Il faut au moins jeûner, un minimum. Même pour ceux qui sont obligés de manger un petit peu plus à cause de leur activité physique, par exemple, eh bien, il faut au moins jeûner sur la qualité. Si on ne peut pas trop diminuer sur la quantité, au moins faire attention à la qualité. Parce que le jeûne a quelque chose d'extraordinaire pour ouvrir le cœur du bon Dieu. Rappelez-vous l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur, pourtant lui, il n'a pas besoin de jeûner puisqu'il était parfait. Notre Seigneur Jésus-Christ a passé 40 jours et 40 nuits sans manger. Pour justement nous rappeler la nécessité, l'importance fondamentale du jeûne. Et le troisième mot utilisé par les pères de l'Église, c'est le mot d'aumône. Pourquoi l'aumône ? Cette fois-ci, contre la concupiscence des yeux, ce désir que nous avons, que le démon met en nous, et que notre nature a en elle-même, à cause des conséquences du péché originel, cette blessure du péché originel, eh bien, à cause de ce désir de la concupiscence des yeux, de désirer tout ce qu'on voit, tout ce qui brille autour de nous. On est comme une petite mouche, si vous voyez, qui est attirée par la nuit, dans la nuit, par une lampe allumée, et qui va tourner autour de la lampe. Et si elle ne se maintient pas à une distance raisonnable de la lampe, ses ailes vont toucher le verre brûlant de la lampe et elle meurt avec les ailes brûlées. Et nous sommes comme ces petits moustiques, mes bien chers frères. Il faut nous maintenir au loin de la lampe. Qu'est-ce que c'est que cette lampe ? Cette lampe représente justement toutes les tentations du monde moderne. Toutes ces choses qui brillent, tout cet or qui brille autour de nous, qui attire, si vous voulez, comme la lampe attire le moustique. Et si nous ne faisons pas justement attention à mortifier cet attrait pour les choses du monde moderne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Nos ailes spirituelles vont toucher ces choses pourries, et évidemment, elles vont brûler, nous allons mourir. Pour cela que l'Église demande l'aumône. L'aumône était capital avant. Les choses qui ont un peu disparu, les choses changent aujourd'hui, malheureusement. Avant, au début de l'histoire de l'Église, on voit très bien comment l'Église nourrissait des milliers de pauvres. Et c'était la seule institution qui, justement, s'occupait des pauvres. Oui, les choses ont un petit peu changé, c'est vrai, mais je pense qu'il faut garder le principe de l'aumône. Garder le principe de l'aumône, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'Église catholique, au moins en France, parce que c'est la coutume en France, demande ce qu'on appelle le denier du culte, précisément pendant le carême. Le denier du culte, c'est quoi ? C'est une aumône. Le prêtre, n'ayant pas de salaire, ayant des frais parfois considérables à supporter, par exemple pour une maison comme celle-ci, eh bien, il est évident que le prêtre ne peut pas faire ça simplement avec la quête, c'est absolument impossible. Vous voyez que je garde la maison ouverte avec la quête que j'ai ici, il faudrait que je ferme la maison tout de suite. Et donc, se rajoutent des dons volontaires, qu'on appelle justement l'aumône, et surtout le don ce qu'on appelle le denier du culte, qui est de coutume en France. Bon, loin de moi l'idée de donner un ordre de grandeur, ça dépend de la possibilité de chacun, mais il y a une obligation, encore une fois, d'aider l'Église, c'est important. Donner du culte, d'aider l'Église, là où vous allez à la messe le dimanche, là où vous suivez les retraites aussi pour votre cœur. Et avec ces trois mots, vous voyez, avec le jeûne, l'aumône et la prière, alors on renforce notre âme pour pouvoir lutter précisément contre les trois concupiscences. Et on retrouve exactement la même chose dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des trois tentations de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que chacune de ces tentations correspond à une des concupiscences. D'abord, la première concupiscence, c'est la concupiscence de la chair, dans l'ordre établi par l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ va aller au désert et là il va avoir faim, évidemment, après 40 jours de jeûne. Et le démon va le tenter pour transformer, changer des pierres en pain, ce que mon Dieu peut faire parce qu'il est Dieu. En fait, il tente cet homme qui fait des pénitences extraordinaires parce que le démon n'est pas tout à fait sûr qu'il est Dieu. Les pères de l'Église ont toujours dit que le démon n'avait pas la certitude de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'en doutait, mais sans être certain. Il se demandait est-ce que c'est le Messie ou non. Il est évident que si le démon avait su que notre Seigneur Jésus-Christ était le Messie, jamais il l'aurait fait crucifier. Puisque par son crucifiement, il perd son pouvoir. Et donc le démon va tenter notre Seigneur pour voir s'il peut détecter qu'il est vraiment le Messie. Donc il dit de changer ses pierres en pain. Les pères de l'Église expliquent que ça représente justement la concupiscence de la chair. Ensuite, deuxième tentation, il le prend physiquement et le place au sommet du temple. Plus grande construction humaine de l'époque. Et ça, cette fois-ci, ça représente la concupiscence des yeux. Ce désir encore de tout avoir, de tout posséder. Puis troisième concupiscence, il le met au sommet de la montagne. En disant, tout ce que tu peux voir ici, je te le donne si tu tombes à genoux, tu m'adores. Ça, c'est l'orgueil, bien sûr. On voit la folie du démon qui cherche à se faire adorer par l'homme, transformer l'honneur qui est dû à Dieu seul, l'adoration qui est due à Dieu seul, par l'adoration de l'homme. C'est exactement le problème du monde moderne. Qu'est-ce qui se passe, surtout depuis la révolution 1789? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'adoration de l'homme. L'homme prend lentement la place du bon Dieu. Et quand l'homme prend la place du bon Dieu, évidemment, le bon Dieu s'en va tout de suite. Donc la surnature disparaît, et quand le démon prend de plus en plus de pouvoir sur un homme, c'est même la nature qui saute. On est en plein dedans maintenant avec la révolution contre la nature. Alors, mes bien chers frères, il faut se battre. Il faut se battre justement en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, pour ouvrir les portes de notre âme, faire sortir tout ce qui n'a rien à faire dans notre âme, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment, effectivement, être le roi réel de mon âme. Il faut bien sûr compter sur les grâces du bon Dieu, mais ne pas se moquer des grâces. Rappelez-vous cette petite phrase toute simple dans l'épître d'aujourd'hui, 2e aux Corinthiens de Saint Paul, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Pourquoi Saint Paul dit-il ça? Parce qu'il y a des gens qui malheureusement ne reçoivent pas avec fruit les grâces du bon Dieu. Et soit les grâces du bon Dieu, mais le champ n'est pas préparé, ou pas assez bien préparé. Le bon Dieu voudrait que ce champ rende du 100% et le champ ne va rendre que du 30% parce que le champ n'a pas été suffisamment préparé. Donc il nous faut utiliser justement la grâce du bon Dieu pour préparer ce champ c'est notre âme. Donc ne craignons pas en début de carême, peut-être pour certains d'entre nous, une des premières résolutions à prendre en début de carême, c'est la résolution d'une bonne confession. Une bonne confession bien humble, bien complète, pour nettoyer notre âme en profondeur et à ce moment-là ouvrir davantage la porte de l'âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y rentrer et le faire avec humilité. Monsieur l'abbé, je retombe tout le temps à vos assiettes de se confesser, on entend ça tout le temps. On pourrait dire la même chose, je mange tous les matins, il faut toujours recommencer le lendemain. Bon, alors j'arrête de manger. Quelqu'un qui arrête de manger, il va mourir. C'est la même chose sur le plan surnaturel. Même si on tombe souvent, le bon Dieu donne les grâces à condition qu'on les demande. La meilleure façon de les demander, c'est s'agenouiller au confessionnal. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ qui parle avec Saint Pierre. Et Saint Pierre qui demande, alors que notre Seigneur vient d'expliquer l'extraordinaire bienfait de la confession. Et Saint Pierre demande à combien de fois il faut que je pardonne aux pécheurs. Cette fois? Et que répond notre Seigneur? Non, Pierre, non pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Pour bien montrer qu'à chaque fois qu'un impénitent s'agenouille devant le bon Dieu, devant son ministre, avec humilité, avec le regret de ses fautes, qui prend les moyens qu'il peut prendre actuellement pour ne pas retomber, avec la véritable volonté de ne pas offenser le bon Dieu de nouveau, il faut absoudre. Et donc il faut, mes bien chers frères, en ce début de carême, peut-être c'est nécessaire pour certains d'entre nous, absolument préparer une bonne confession afin d'ouvrir les portes pour que notre Seigneur puisse vraiment rentrer. Il y a un dernier point sur lequel aussi il faut, je crois, beaucoup insister. Quand on comprend mal l'importance du carême, on ne pourrait voir dans le carême que, je dirais, la partie difficile, la partie de combat. On oublie que le carême est d'abord et aussi un temps de grâce, un temps de miséricorde. La meilleure façon de le prouver, je crois, c'est avec le texte que l'Église catholique a choisi pour l'ouverture du carême. Au mercredi décembre, il y a un texte d'un petit prophète qui est très peu utilisé dans la liturgie, le prophète Joël. Je crois que c'est pratiquement un des seuls textes de toute la liturgie. Et dans ce texte du prophète Joël, et il est dit, convertissez-vous à moi de tout notre cœur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit aux hommes, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, parce que je suis bon, patient et plein de miséricorde. En début de carême. On pourrait croire que l'Église va dire, attention, le carême arrive, 40 jours de pénitence, vous allez devoir faire pénitence, sinon c'est l'enfer. Et donc notre Seigneur s'est présenté comme un grand justicier, qui dira exactement cela, c'est-à-dire si vous ne nous convertissez pas, c'est l'enfer pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que dit l'Église? Convertissez-vous à moi parce que je suis bon, patient et plein de miséricorde. » Donc le temps de carême, c'est quoi? C'est d'abord un temps de miséricorde. Le temps de carême, c'est quoi? C'est d'abord un temps où notre Seigneur Jésus-Christ nous donne plus de grâce que d'habitude pour qu'on puisse ouvrir les portes, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans notre âme et faire sa demeure. C'est ce qu'il veut. Alors, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas que la très sainte Vierge Marie est celle par laquelle toutes les grâces passent. Et mon Dieu aurait pu, dans sa sagesse, passer directement. Eh bien non, il a voulu passer par la très sainte Vierge Marie. Pourquoi? Parce que c'est par elle qu'il a eu une autre humanité. La très sainte Vierge Marie n'aurait pas accepté le mystère de l'incarnation. Il n'y aurait pas eu justement cette union entre l'humanité et la divinité entre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a voulu passer par la très sainte Vierge Marie pour recevoir cette humanité et pouvoir mourir pour nous sur la croix. Et donc c'est par elle que toutes les grâces passent. Il le dit expressément au moment de sa mort. Fils, à Saint Jean, fils, voici votre mère. Mère, voici votre fils. Alors demandons, eh bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre volonté, d'ouvrir notre cœur pour que nous comprenions, soyons capables, avec la grâce du bon Dieu, de nous mettre à genoux au pied de la croix et dire au bon Dieu, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Je suis faible, ma foi est faible, augmentez ma foi. Mon espérance est faible, augmentez mon espérance. Ma charité est faible, et mon Dieu, augmentez cette charité. Et le bon Dieu qui ne demande que ça, dès qu'il voit qu'une âme commence à sourire immédiatement, il donne le double de ce qu'on demande. Alors passons, bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie, pendant ce temps de carême, n'oubliez pas votre chapelet tous les jours pendant le temps de carême, pour que justement nous puissions préparer notre âme et participer à la grande joie de la fête de Pâques après 40 jours de pénitence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.